أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل ربي فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، je vous ai dit précédemment que la rentrée scolaire nous impose un certain nombre de thèmes, un certain nombre de sujets qu'on se doit d'analyser, qu'on se doit d'en s'entretenir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Parmi ces thèmes, ce que je viens de faire à travers les trois derniers prêches, à savoir la science et le savoir, l'acquisition de la science, l'acquisition du savoir, le statut du savoir et de la science dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, le statut des savants dans la religion de Allah tabaraka wa ta'ala. Et justement, la deuxième thématique qui s'impose avec la rentrée scolaire, c'est celle des enfants. Et quand je parle des enfants, donc je parle de l'éducation des enfants en islam, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. À partir d'aujourd'hui, on va traiter de cette thématique-là. On va parler des enfants. On va parler de l'éducation des enfants, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Mais avant cela, salut ala rasulillah. Chers frères, chers sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que la plus grande responsabilité, que l'un des plus grands dépôts que nous a confié Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah Azza wa Jalla nous a orientés à s'intéresser à cette responsabilité, à ce dépôt, c'est celui des éducateurs. Et quand je dis éducateurs, bien sûr je parle de parents, des pères, vis-à-vis des épouses vis-à-vis des pères, et surtout des parents vis-à-vis des enfants. C'est une mission qui est arde, c'est une mission qui est difficile, c'est une mission qui n'est pas de tout repos, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et je dirai tout à l'heure pourquoi c'est pas de tout repos, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais on se doit de l'assumer dans toutes ses dimensions et dans tous ses contours, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Sinon, on le payera maintenant. Et le jour du jugement, on rendra compte auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et on le verra à travers deux passages, bi'idhnillahi azza wa jalla. Donc on se doit de le faire. Le jour du jugement, quand on sera devant Allah tabaraka wa ta'ala, il nous interrogera sur ça. Il nous interrogera sur nos enfants. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour vos enfants? Qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants? Quel rôle vous avez joué vis-à-vis de vos enfants? Et ainsi de suite. Donc on se doit de le faire, bi'idhnillahi azza wa jalla. Et d'ailleurs, le Coran al-Karim, comme la sunna du prophète alayhi salatu salam, nous a envoyé un certain nombre de signaux, nous a orientés vers cela, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et donc, énormément de versets coraniques, énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enjoint le fait d'assumer cette responsabilité, donc de s'ériger en éducateur, donc de prendre en charge l'éducation de nos enfants, bi'idhnillahi azza wa jalla. Parmi ces textes-là, un verset que vous n'êtes pas normalement censé ignorer. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum nar wa qudwa an-nas wal hijara » « Oh croyant, préservez-vous ainsi que votre entourage de, la, de l'enfer, d'un feu dont le combustible sont les pierres et les hommes. » Oh croyant, dans le Coran al-Karim, il y a un certain nombre d'appels. Et parmi les appels les plus répandus dans le Coran al-Karim, c'est « Ya ayyuhalladhina amanu » « Oh croyant » Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Abdullah ibn Mas'ud qui fait cette réflexion extraordinaire et très importante. Il nous dit, quand vous entendez « Ya ayyuhalladhina amanu » aux croyants, ouvrez bien les oreilles. Lavez bien vos oreilles. Non seulement on se doit d'ouvrir les oreilles, de se laver les oreilles, mais il faut la présence de l'esprit. Il faut la présence de la cervelle et du cœur pour déchiffrer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et lui-même nous dit, après chaque yahuhadine amen, après chaque appel, cet appel, ce genre d'appel, il y a soit une injonction de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, soit une interdiction. Les injonctions, c'est très important. Les interdictions, c'est aussi important dans notre cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, il y a quoi? Il y a une injonction. Il y a une recommandation. Il y a une obligation. C'est quoi cette obligation? Préservez-vous. Se préserver de l'enfer, ce n'est pas un acte facultatif. Mais ce n'est pas un acte surrogatoire. Le Jannah, le paradis, éviter l'enfer, ce n'est pas donné à la... Non, on se doit de faire l'effort nécessaire. C'est Allah qui dit « Wa man arad al-akhira » Et celui qui veut le dollar, wa sa'a laha sa'yaha, et a fait les efforts qu'il faut. Parce que pour le Jannah, ce n'est pas un don comme ça. Le Jannah, ce n'est pas un cadeau, Jama'a. Non, pour le Jannah, il faut vraiment faire des efforts. Pour le Jannah, il faut vraiment agir. Il faut faire le maximum pour le Jannah. D'ailleurs, est-ce que nos actions peuvent suffire pour aller au paradis? Non. Les actions, c'est rien. C'est surtout la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y accéder au paradis. Comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais moi, dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas accéder au paradis de par mes actions. Illa an yataghammadani Allah wa bi'rahmatihi min. Si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous et moi, est-ce que nos actions peuvent suffire pour aller au paradis? Absolument pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut faire le maximum pour le faire. Illa inna sal'atallahi ghaliya. La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala est chère. Et c'est quoi la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le Jannah. Et nous, on veut l'avoir gratuitement. Sans effort aucun? Absolument pas. Donc on doit faire l'effort. Donc se préserver de l'enfer, faire le nécessaire pour aller au paradis, pour gagner le paradis, pour y être avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'espère qu'on sera avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'espère qu'on sera au plus haut degré de le Jannah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nécessite de faire beaucoup d'efforts, bi'idhnillah azza wa jal, c'est une obligation et on doit le faire. Sauf que se préserver de l'enfer et accéder au paradis n'est pas une affaire individuelle. Ce n'est pas chacun pour soi et Allah pour tous. Pour anfusakum wa ahlikum, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Préservez vos personnes et votre entourage, vos épouses et vos enfants de l'enfer. Donc ce n'est pas une affaire individuelle, comme bien même, mais c'est une affaire collective. Bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, quand on lit le Coran al-Karim, on trouve que l'affaire de Jannah et l'affaire de l'enfer est une affaire familiale. Ce n'est pas une affaire individuelle. Malheureusement, aujourd'hui, on voit ce contraste. Malheureusement, aujourd'hui, tu trouves des gens, mashallah, quand c'est le moment de la Umra, il y a la Umra. Quand c'est le moment de l'Hajj, il y a le Hajj. Quand c'est le moment de la prière, il est à la prière. Un pieu, même la lumière, tu la vois. Même la lumière, tu la vois. Et quand tu le mets au milieu de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de ses filles, tu te dis, il n'a rien à voir avec eux. Il vient d'une autre planète. Ses filles, comme disaient nos frères de Da'wa et Ahwal, ses enfants de l'autre côté, et ainsi de suite. Subhanallah. C'est pas ce que nous demande l'islam. L'islam nous demande, oui, d'être pieux. Et ça me demande de se purifier. Mais il nous dit, vous avez une autre responsabilité. C'est quoi? C'est aussi d'entraîner dans notre sillage nos épouses, Et nos enfants, de trouver quelqu'un, mashallah, et de rentrer chez lui à la maison pour demander à mon sahaf. Il te dit non, non, mais les enfants, ils ne veulent pas, et ma femme, elle ne veut pas, et je ne sais pas quoi. Tu rentres chez lui, tu trouves des statues, tu trouves je ne sais pas quoi, tu ne trouves aucune apparence d'un foyer musulman. À part peut-être lui, il a un petit tapis pour faire ses prières. C'est pas normal, ce n'est pas ce qu'il demandait. Normalement, encore une fois, on doit entraîner dans notre sillage nos enfants. Donc, aller au paradis, se préserver de l'enfer, ce n'est pas une affaire individuelle. C'est une affaire collective et surtout, ça doit commencer tout d'abord par notre famille, par nos épouses et par nos enfants. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième verset, la subhanahu wa ta'ala dit « Ahshurul ladhina zalamu wa azwajahum » Rassemblez les injustes et leurs épouses. Mais pourquoi leurs épouses? C'est parce qu'ils étaient dans leur siège, parce qu'ils gravitaient autour d'eux, parce qu'eux aussi étaient dans l'injustice. Parce que quand on a un injuste, et par exemple, sa femme, elle n'est pas injuste, elle est pieuse. Est-ce qu'on va la coller à lui? Non. La Sahara nous a parlé de ça dans le Al-Kalim. Fir'aoun, c'est quoi? C'est un injuste. Et sa femme, Asiya, bint Muzahim, c'est quoi? C'est une pieuse. Est-ce qu'elle sera avec lui? Non. Mais Allah Sahara nous parle des injustes et de leur famille quand ils sont aussi dans leur sillage, quand ils sont aussi dans l'oppression et dans l'injustice ou l'iyad au billah, ces gens-là, ils seront avec eux. C'est pour ça que je vous dis, l'affaire du paradis, l'affaire de l'enfer, est une affaire qui n'est pas individuelle, qui n'est pas, mais c'est une affaire collective, et surtout, c'est une affaire familiale, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aussi nombreux, et qui parlent de cette responsabilité, et qui parlent de cette mission, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi alayhi wa sallam nous dit, maintenant, dans le hadith que vous connaissez normalement tous, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Chacun d'entre vous est parrain. Et chaque parrain est responsable de ce que l'Azza wa Jalla lui a confié. On n'est pas tous chefs d'entreprise. On n'a pas tous des sociétés. On n'est pas tous des directeurs, je ne sais pas quoi, d'entreprise ou je ne sais pas quoi. On n'a pas tous un poste de responsabilité. Mais on a tous au moins une responsabilité commune qui est la femme et les enfants. Donc chacun d'entre nous est parrain, et chaque parrain est responsable de ce que Allah Azza wa Jalla lui a confié. J'ai une petite cellule familiale, je suis responsable de cette cellule familiale. J'ai des enfants, je suis responsable de mes enfants. J'ai une femme, je suis responsable de ma femme. L'homme est parrain, et il est responsable de ce que Allah Azza wa Jalla lui a confié. Ça veut dire sa femme et ses enfants. Parce que l'on considère que soit la responsabilité d'éducation elle incombe à l'homme, soit elle incombe à la femme. Mais jamais on dit c'est une mission commune, partagée par les deux. Ce que l'homme peut faire, il le fait. Ce qu'il ne peut pas faire, sa femme, elle le complète. Ce que la mère, elle peut faire, elle doit le faire. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est l'homme qui doit la compléter. C'est l'époux, c'est le père qui doit la compléter. Il n'y a pas un conflit entre l'homme et la femme dans l'éducation, mais normalement, c'est une complémentarité. Et les deux sont responsables de l'éducation des enfants. Le hadith du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « La haine yu'addib al-rajul waladahu khayrun lahu an yatasaddaqa bisar » Dans ce hadith, Nabi sallam compare entre deux actes pieux. L'éducation des enfants et la sadaqa. Et le don dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas sans ignorer la récompense, la rétribution de la sadaqa, du don dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas sans connaître les vertus de la sadaqa. D'ailleurs, j'ai fait il y a quelque temps tout un prêche sur l'impact de la sadaqa pour repousser les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala et lever le mal et les maux et les maladies qu'on a. Ceux qui n'ont pas entendu peuvent revenir à la chaîne YouTube de l'Islah, de l'association Islah, et vont la trouver bien tabaraka wa ta'ala. La récompense de la sadaqa est une récompense, comme on entend aujourd'hui dire, exponentielle. Pour ceux qui ont fait un peu de maths. C'est quoi dire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une récompense énorme, bien tabaraka wa ta'ala. Mais, le Nabi alayhi sallam, quand il compare la récompense de l'éducation des enfants à la récompense de la sadaqa, du don dans le sens de Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le plus de hasanat, le plus de récompense, le plus de la rétribution, on la trouve où? Dans l'éducation des enfants. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Le hadith du prophète, dans lequel il nous dit, ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن. لا نجلس نفار دو ليريتاج de ce qu'on doit laisser à nos enfants, de ce qu'on doit léguer à nos enfants. Il nous dit, le meilleur legs, le meilleur héritage, la meilleure chose qu'on peut laisser à nos enfants, c'est quoi? Ce n'est pas les appartements. Ce n'est pas les villas construites au bled. Ce n'est pas le compte en banque. Oui, l'islam dit, si tu peux, si tu es capable de laisser tes héritiers riches, fais-le. Ce n'est pas haram. Ce n'est pas interdit. C'est pas prohibé, c'est pas incompatible avec les textes de l'islam. Si je peux le faire, je dois le faire. Sauf qu'il y a un problème aujourd'hui, encore une fois. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sacrifient au bon sens du mot. C'est un vrai sacrifice. Hein? Se sacrifie. Et il laisse tout, il néglige tout. Pourquoi? Pour mes enfants. Ah, mes enfants ont besoin d'une maison au bled. Pour qu'elle sera habitée par les pigeons. Hein? Et peut-être par le djinn, là, mais non. Des gens qui se sacrifient pour les enfants, les meilleurs habits, les meilleurs smartphones, les meilleures voitures, les meilleurs ci, les meilleurs cela. Parfois, il y a des gens qui se sacrifient au point où ils délaissent et négligent ce qu'il y a entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis à une personne, pourquoi tu viens à prier, tu viens pas à la mosquée? Non, c'est le problème de la lumière. C'est la richesse des enfants. Je travaille pour mes enfants. Pourquoi tu viens pas à Jumu'a? Mais tu sais, moi j'ai des enfants, je dois les nourrir, je dois les... C'est comme si c'est moi qui nourris mes enfants. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nourrit un autre?
Non.
Non, c'est Allah qui nous nourrit. C'est Allah qui nous nourrit. C'est Allah qui s'adresse à Sidna Ismaïl alayhi salam en lui disant Wamur ahlaka bis salati wastabir alayha. Ce qu'on te demande, c'est d'étudier tes enfants sur la prière, sur la religion subhanahu wa ta'ala. Lams al-Ukalisfa. Côté richesse, ne prends pas de soucis. Ne te soucie pas de cela. Nahnu narzuq al-Razzaq. Le pourvoyeur des richesses, c'est qui? C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est pas toi, c'est pas moi, ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas nous, combien même on est riche. Et c'est pas nous qui faisons nourrir nos enfants, c'est une richesse de la part, c'est une subsistance de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est parce que c'est les enfants et ainsi de suite. Et juste après sa mort, alors qu'il est dans sa tombe, alors qu'il est en train de rendre compte à Allah Subhanahu wa Ta'ala, vous savez que l'argent qu'on gagne, centime par centime, il passera au crible auprès de la subhanahu wa ta'ala. Tu as eu cette centime-là, tu as eu cet euro-là, tu as eu ces 10 euros-là, tu l'as eu comment, et ainsi de suite. Toi, tu es dans ta tombe, en train de rendre compte auprès de la subhanahu wa ta'ala, et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de s'entre-déchirer. Ils sont en train de s'entre-tuer. L'inimitié, l'animosité qu'on n'a jamais vue, elle s'installe à cause de quoi? L'héritage. Dites-moi, billahi alayk. Dites-moi de grâce. Est-ce qu'il n'y a pas une famille aujourd'hui, partout, hein, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Congo, que ce soit, je ne sais pas, qui n'a pas un problème d'héritage? Grand ou petit, hein? Important ou minime, ou futile, ce futile. Subhanallah, il n'y a pas une seule famille, il n'y a pas ce problème-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'obstine à laisser à nos enfants un héritage. Oui, c'est bien de laisser un héritage, mais surtout, de laisser avec l'héritage quelque chose de très important, du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la bonne éducation, l'intégrité, la moralité, la droiture. Si mes enfants, je les laisse pour moi, si mes enfants sont une moralité éminente, il n'y aura pas de problème. Un bon héritage ou un mauvais héritage, beaucoup moins ils sauront faire bon usage. Mais si moi je vais m'obstiner à laisser un héritage sans lui laisser l'essentiel, le garde-fou, pour ne pas s'entretuer, pour ne pas s'entre-déchirer, pour ne pas avoir cette inimitié, cette animosité, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être bien. Donc, l'éducation des enfants est une responsabilité. L'éducation des enfants est une mission régalienne qui incombe à chacun d'entre nous. C'est une mission difficile, c'est une mission ardue, et on doit l'assumer. Le problème, c'est que on comprend mal cette éducation. Énormément de gens, quand tu leur parles de l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'ils te disent? Non, l'éducation des enfants, elle dépend de périodes. Elle dépend des étapes de la vie que passe l'enfant. Tant que l'enfant n'a pas encore atteint la puberté, il n'y a pas de problème. Tant qu'il est avec toi sur le même toit à la maison, il n'y a pas de problème. Tant que si, si, c'est tant que c'est cela. La fille, tant qu'on n'a pas fréquenté, je ne sais pas quoi, ce n'est pas un problème. Tant qu'elle n'est pas partie dans tel collège, dans tel endroit, ce n'est pas un problème. Non, c'est un problème. L'éducation en islam des enfants ne dépend pas des périodes, ne dépend pas des étapes de la vie. L'éducation en islam, elle commence avant la naissance de l'enfant. Est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a conscience que l'éducation des enfants en islam, ça doit commencer avant la naissance de l'enfant? Alors que l'enfant n'existe pas, l'islam essaie de lui fournir, de lui préparer le terreau, le terrain, l'environnement sain dans lequel il peut avoir une bonne éducation. Comment résoudre cette équation? C'est simple. Quand on veut faire des enfants, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se marier. Le seul moyen pour un musulman d'avoir des enfants, c'est le mariage. On ne peut pas le faire à travers le concubinage. On ne peut pas le faire, je ne sais pas comment. C'est le mariage. Et quand on veut se marier, qu'est-ce qu'il faut? On doit choisir. Le mari ou l'homme doit choisir. La mariée, la femme, elle doit choisir. Et qui dit choix, dit critères de choix. Quels sont les critères de choix pour une femme? Quels sont les critères de choix pour un homme? C'est le Nabi alayhi sallam qui nous enseigne tout cela. Le Nabi alayhi sallam nous dit « Toum kafal mar'a tous les arba ». Quand tu veux te marier, il y a quatre critères à avoir. « Toum kafal mar'a tous les arba ». Li jamaliha, wa li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha, fatfar bidati dini tal bitiha. Il y a des gens, quand tu veux se marier, qu'est-ce qu'ils voient en la femme? Sa beauté. Moi, je veux la plus belle. Il y a des gens qui envoient leurs parents en mission au bled pour dénicher la perle rare. La plus belle du village, la plus belle de la ville, la plus belle peut-être de tout le territoire, moi je veux me marier avec celle-là. Machallah. Il y a des gens, quand ils veulent se marier, ils ne voient pas la beauté. Ils voient le compte en banque de la femme. Est-ce qu'elle est un potentiel héritière ou pas? Est-ce qu'elle va hériter de ses parents? Est-ce que leurs parents ont une fortune? Je ne sais pas quoi. C'est ça ce qu'ils voient. D'autres, ils vont voir quoi? Elle est fidèle qu'elle. Le rang social de la femme et de sa famille et de ses parents. Moi, je vais épouser la femme, la fille d'un ministre. Moi, je vais épouser la femme de, je ne sais pas qui, d'un responsable et ainsi de suite. Nabi al-Sallam dit, ces trois critères-là sont à mettre de côté. Et surtout, il faut voir un critère essentiel. C'est quoi? Femme. Quand tu dois choisir ta femme, et surtout pour ceux qui veulent se marier, inchallah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui sont mariés, ça y est, c'est trop tard. Quand tu veux te marier, cher frère, il faut voir quoi? La religion. Il faut voir quoi? La droiture, l'intégrité, la moralité de la femme. Il est en train de faire un dua pour pauvreté contre celui qui va se marier et qui ne va pas choisir sa femme par rapport à sa religion, par rapport à sa droiture, par rapport à sa moralité. D'ailleurs, il y a un hadith qui complète ce hadith et qui l'explique bien. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: mais pourquoi tu choisis la femme pour sa beauté? Pour s'afficher devant elle? Pour dire: oh, mashallah. Non. Le Prophète sallallahu alayhi wa nous dit: celui qui va épouser une femme pour sa beauté, Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui l'homme le plus moche sur terre, où il y a de lui. Et si tu vas épouser ta femme par rapport à son compte en banque, par rapport à son argent, par rapport à sa richesse, Allah fait de toi l'homme le plus pauvre sur terre. Pourquoi? Parce que la richesse est entre les mains de qui? Et si Allah veut faire de toi maintenant un riche, ça demande quoi, subhanahu wa ta'ala? Rien, absolument rien. Et si Allah veut faire du plus riche et du plus puissant quelqu'un de pauvre, si maintenant, il y a des gens qui ont perdu des milliards par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui un crash boursier. En une fraction de seconde, les gens perdent des milliards et des milliards. Pourquoi? Parce que le pourvoyeur des richesses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi tu cherches pour la richesse à travers une femme, ou à travers sa famille, ou à travers je ne sais pas quoi? Non, on ne doit pas choisir sa femme par rapport à sa richesse. Et celui qui veut se marier avec une femme pour qu'il ait une certaine respectabilité dans la société, parce que son père est un ministre, parce que son père est ci, parce que son père est cela, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala fit de lui l'homme le plus petit sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la petitesse et tout ce qu'il en va. Et celui dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui va se marier avec sa femme pour sa religiosité, pour sa moralité, pour son intégrité. Barakallahu lahu fiha wa barakallahu laha fiha. Si on veut la baraka dans un mariage, si on veut la quiétude, l'apaisement recherché à travers le mariage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut choisir sa femme par rapport à sa moralité, par rapport à son intégrité. Oui, toi tu choisis. Est-ce que la femme a le droit de choisir? Bien sûr, on l'a dit. Et elle choisit par rapport à quoi? Par rapport à des critères qu'elle va inventer? Ou bien c'est ses tuteurs qui vont l'inventer? Non, par rapport à des critères définis aussi par le Nabi alayhi sallam. C'est le Nabi alayhi sallam qui nous dit « Ida ja'akum antardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu » Si se présente à vous quelqu'un de grande moralité, quelqu'un de grande intégrité, quelqu'un de droit, quelqu'un de pieux, quelqu'un de mashallah, qu'est-ce qu'on fait? On doit le recaler? On doit le refuser? Ce prétexte qu'il est pauvre? Ce prétexte qu'il est ici, qu'il est cela? Non! Tous les critères qu'on a énumérés auparavant sont nuls, sont caducs quand il y a le vrai critère qui est celui de la religion. Maintenant, si on a la religion, et en plus de ça, on a la richesse, on a la beauté, on a tout ce qu'il faut, tout est bénéfique. Ça c'est du bonus. Mais la première des choses à voir chez la femme, la première des choses à voir chez l'homme, c'est quoi? C'est la moralité, c'est l'intégrité d'Ibnah Azzawajal. Imaginez, quelqu'un de pieux qui va rencontrer une pieuse. Ce foyer-là, il va être comment? Ça sera un foyer pieux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les enfants, éventuellement, quand on aura des enfants, ils vont évoluer dans un milieu sain, dans un environnement sain, donc on peut avoir une bonne éducation pour les enfants, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la compréhension du verset dans lequel on peut dire الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين الطيبون للطيبات والطيبون للطيبات. Le bon pour les bonnes, les bonnes pour les bons, les mauvais pour les mauvaises pour les mauvais. C'est quoi ça? C'est pas en se autoproclamant bon que je vais avoir une bonne, mashallah. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais si je vais faire comme je vais choisir, je vais être bon et choisir ma femme par rapport à sa moralité, elle aussi, donc ne se rencontrons que les bons entre eux, ne se rencontrons que les mauvais entre eux, et donc on peut appliquer ce verset-là, Ibnah Azzawajal. Arrêtez de dire je vais le meilleur. Il y a des gens qui veulent des femmes à l'image de Fatima. Il y a des gens qui veulent une femme à l'image des compagnons de Nabi Assalam. Il y a des gens qui veulent des maris à l'image des compagnons de Nabi Assalam. Mais c'est possible. Mais toi aussi, tu dois te hisser à ce niveau-là. Quelqu'un qui veut une femme comme Fatima, il faut qu'il soit comme Ali, non? Moi et toi, on ne peut pas avoir une femme comme Fatima. Hein? Et celui qui veut une femme telle que Ruqayya, il faut qu'il soit comme Uthman. Si tu n'es pas comme Uthman, tu ne peux pas. Et la femme aussi qui veut quelqu'un comme Omar ou comme Uthman ou comme je ne sais pas quoi, il faut qu'elle se hisse, qu'elle hisse son niveau, qu'elle élève son niveau et qu'elle soit au niveau des femmes qui étaient avec le Nabi alayhi wa sallam pour pouvoir aspirer à se marier avec quelqu'un comme celui-là. Donc, quand on parle de l'éducation des enfants en islam, il faut savoir que cette éducation-là, ce n'est pas une affaire d'étape, ce n'est pas une affaire de moment, ce n'est pas une affaire de circonstances. Là, ça commence avant la naissance de l'enfant et ça doit se propager jusqu'à sa mort. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم على الله نتوكل ونستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Dans l'éducation des enfants, juste un petit point à relever rapidement, inchallah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'on reviendra, c'est celui des prénoms, c'est celui des noms et des prénoms qu'on doit donner à nos enfants, bismillah azza wa jalla. Vous n'êtes pas sans savoir que notre sallam nous dit إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم يوم القيامة. Le jour du jugement, quand Allah subhanahu wa ta'ala rassemble tout le monde, Ard al-Mahsha, sur cette terre-là, pour rendre compte de ce qu'on a fait auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla demande aux anges de nous appeler un par un, et par le nom, et j'allais dire par le prénom aussi. Fulan ibn Fulan, un tel fils d'un tel, et ainsi de suite. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, fahassinu asma'akum. Quand bien même la situation ne s'apprête pas à commenter le nom d'un tel et le prénom d'un tel, je ne sais pas quoi, mais malgré cela, M. Sallam nous dit فَحَسِّمُوا أَسْمَاءَكُمْ. Choisissez les prénoms pour vous et pour vos enfants, بِإِنَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et Nabi Sallam nous donne un certain nombre d'indications. Il nous dit خَيْرُ الْأَسْمَاءِ مَا عُبِّدَ وَحُمِّدَ. comme on dit, tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 entre noms et attributs. Il suffit de rajouter abd et on donne un prénom à nos enfants. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de travestir les prénoms. Et quel prénom? On est en train de les travestir. Peut-être qu'on veut faire plaisir à ce pseudo-intellectuel, ce débile qui s'appelle Eric Zemmour. Non? Je ne pense pas qu'on le connaît. Je ne pense pas que la majorité des musulmans écoutent ce que dit ce débile, qui nous dit qu'il faut changer de prénom si vous voulez s'intégrer dans la République. On n'a pas besoin de changer de prénom. Mais on n'a pas besoin non plus de travestir les noms. Aujourd'hui, le mot Anas, il se transforme en Yanis. Mais c'est quoi ça? C'est quoi Yanis? Non. Donne-moi l'explication de ça, non. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient parfois me dire, « Ah, j'ai choisi pour mon fils le même prénom que toi. J'ai appelé mon fils, ah, tu as appelé Haroun ?» Non, c'est Aaron. Je dis, « Moi, je ne m'appelle pas Aaron. Moi, je m'appelle Aaron avec un H, et j'insiste sur le U vers la fin. » Non, Aaron. Dans 10 ans, dans une décennie, ça ne va pas devenir Aaron. Peut-être ça va devenir autre chose. On est en train aujourd'hui de travestir les prénoms. Il ne faut pas le faire, les Erwan. Normalement, on doit choisir ce nom-là. Et quand l'enfant commence à grandir et quand il est en mesure de comprendre, on doit l'expliquer. Parfois, tu vas voir des gens chez eux à la maison, tu t'appelles leurs enfants, tu lui demandes c'est quoi ton prénom, tu lui demandes c'est quoi l'origine de ton prénom. C'est quoi l'explication de ton prénom? C'est quoi le surnom de ton prénom? Je ne sais pas. Mes parents m'ont donné ce prénom et c'est tout. Non, on doit être capable de l'expliquer. Comme ça, ça fait partie de sa personnalité. C'est pas quand tu vas dire à ton fils, on va t'appeler Abdelkader, il y a ton frère qui va venir te dire, non, non, on va pas l'appeler Abdelkader parce que c'est lourd dans la société. Dans quelle société c'est lourd? Mais si je lui explique ce que ça veut dire quoi Abdelkader, il va le prendre. C'est ça ce qu'il faut faire, Yerouane. Et je termine par cette histoire extraordinaire, exceptionnelle, pleine d'enseignements. Ce père qui est venu voir Omar al-Khattab, radiallahu anhu, alors qu'il est croyant pour se plaindre de son fils. Mon fils est désobligeant, mon fils est désobéissant, mon fils ici, mon fils est celui-là, il se comporte mal avec moi, ainsi de suite. Omar rappelle les deux. Il commence par l'enfant, il commence par lui faire une leçon de morale, comme on dit aujourd'hui. Et les parents, ici, et celui-là, et ainsi de suite. L'enfant a arrêté, il lui dit, vous parlez que des droits des parents, des droits des parents, des droits des parents. Mais est-ce que les parents n'ont pas de devoirs vis-à-vis de leurs enfants? On s'est parlé que des droits. Ah, cher, est-ce que tu ne peux pas lui faire danse du moins assure les droits des parents. Il y a droit et devoir. Et si tu veux jouir de tes droits, assume tes devoirs. C'est ça la règle. Tu n'assumes pas tes devoirs, tu ne vas pas avoir tes droits. C'est ça l'essentiel. Donc avec les enfants, c'est la même chose. Droits des parents, droits des parents, droits des parents. Ils sont où les droits des enfants? Ils sont où le devoir envers nos enfants? Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas de devoir vis-à-vis des enfants? Est-ce que les enfants n'ont pas de droit? Oui, vas-y, il a des droits. C'est quoi? Il doit dire, un, il doit choisir sa mère. Quand on dit que l'éducation, elle commence où? Avant la naissance de l'enfant. Deux, il doit choisir son prénom. Et trois, il doit éduquer ce nom. Les préceptes de l'islam, il doit lui apprendre le Coran, la sunna, la religion de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, merci à Amir Mu'minin. Merci beaucoup. Barakallahu fik, ô émir des croyants. Alors, je vais te dire, ma mère, Zinjiyatul Majusiyya. Vous savez, les gens qui adorent le feu, elle était dans ce contexte-là. Et il m'a appelé Jou'lan. Jou'lan, c'est un nom, c'est une insecte. C'est une insecte. Tu donnes à ton fils le nom d'une insecte, l'ayat de Bouddha. Et il ne m'a jamais appris, ne serait-ce que l'être de Al-Qur'an Al-Karim. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, de lui dire, laqad 'aqaqtahu qabla an ya'aq. C'est toi qui l'as mis sur ce chemin de la désobéissance. C'est toi qui l'as appris la désobéissance. C'est toi qui as commencé. Tu n'as pas fait ton devoir. Tu n'as pas fait ta mission. Tu n'as pas assumé ta mission. Donc aujourd'hui, tu ne dois pas réclamer tes droits. Aujourd'hui, quand on voit des gens musulmans qui sont dans des EHPAD, des lycées, aujourd'hui, quand on voit dans les hôpitaux des parents, des mères, et ils ont une famille et personne ne demande après eux. C'est quoi? C'est parce qu'il y avait un problème en amont. Avant, dans l'éducation de ces enfants. Hein, vous connaissez l'histoire de cette personne qui est rentrée voir le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Il a trouvé Hassan Hussein avec lui. Il s'est en parlé avec les compagnons. Et Hassan Hussein jouait avec le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Il leur faisait des câlins. Et cette personne disait à Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, j'ai 10 enfants, j'ai jamais fait de câlin à l'un d'entre eux. Moi, ma seule façon d'expression avec eux, c'est le regard. Quand je les vois, ils s'arrêtent tout. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lui a dit, Awa amliku an naza'a Allahu ar-rahmata min qalbik. Toi, ton cœur, il est dur. Toi, tu n'as pas de miséricorde dans ton cœur. Ensuite, il lui dit quoi? Man la yarham, la yurham. Si aujourd'hui tu ne peux pas faire preuve de bonté, de miséricorde, quand tu seras grand, quand tu seras... C'est pour ça que je vous dis, on le payera tôt ou tard. Si ce n'est pas dans ce moment, on le payera avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il y a des gens aujourd'hui dans des EHPAD et personne ne demande après eux. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui meurent où ? Dans des foyers, une semaine, 15 jours, on se rend compte qu'ils sont morts. Pourquoi ? Ils ont une famille, ils ont construit, machallah, ou bled, ils ne veulent pas rentrer. Pourquoi ? Parce qu'ils manquaient cet élément essentiel, cette chaîne essentielle dans l'éducation des enfants, malheureusement. اللهم اجعلهم من المتفوقين اللهم اجعلهم من الناجحين اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ولكل مطالب منا الدعاء ولكل مطالب منا الدعاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم اجمعين واقيم الصلاه